La capsule.
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Le coup de fil à un ami.
Allô ?
Au signal, veuillez dicter votre message. Bon, alors c'est quoi cette histoire d'eau sur la Lune ? On m'a toujours dit qu'elle était sèche.
Au CNES, celui qui sait, c'est Francis Rocard, planétologue.
Allô ?
Allô, Francis ?
Oui.
Je viens d'apprendre qu'on aurait découvert de l'eau un peu partout sur la Lune. Peux-tu m'en dire un peu plus ?
La mission américaine Epoxy a survolé la Lune à environ 1 000 000 de kilomètres récemment et a détecté pour la première fois sur l'ensemble du disque lunaire la présence d'eau à la surface corrélée à la température de surface, les zones les plus chaudes étant les moins riches en eau et les zones les plus froides relativement riches en eau. Et ça, c'est une découverte tout à fait nouvelle. On pensait que la Lune était totalement sèche suite à l'analyse des échantillons lunaires qui a été fait depuis les années 70.
Alors, la Lune est explorée depuis les années 60. Comment se fait-il qu'on n'ait pas fait cette découverte plus tôt ?
Il se trouve que nous annonce maintenant que la sonde Cassini, en 1999, avait effectivement détecté la présence d'eau à la surface, mais cette détection avait paru peut-être un peu marginale et n'avait pas été publiée. Le deuxième point, c'est que depuis une quinzaine d'années, on pense qu'il y a néanmoins de la glace d'eau dans des cratères près des pôles, du pôle Nord et du pôle Sud, des zones extrêmement froides qui se comportent comme des pièges thermiques qui pourraient accumuler les molécules d'eau issues d'impacts de comètes depuis plus de 4 milliards d'années.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette eau s'est créée ?
Le mécanisme qui est invoqué fait appel au vent solaire, essentiellement constitué d'atomes d'hydrogène et d'hélium ionisés. Et ces atomes d'hydrogène, en percutant la Lune, rentrent dans les roches et peuvent créer des réactions chimiques et fabriquer, par exemple, la molécule d'eau. Et ensuite, par effet de température, ces molécules d'eau peuvent sortir des roches, se collent à la surface des roches, et au moment où le soleil chauffe très fort, ces molécules passent en phase vapeur. Donc il y a un équilibre qui aboutit à un petit peu d'eau à la surface de la Lune en permanence, en fonction de la température du sol.
Et quelle quantité d'eau ça représente exactement ?
C'est des quantités relativement faibles, de l'ordre d'un demi-litre d'eau pour la taille d'un terrain de football, essentiellement la surface de la Lune, c'est-à-dire que ce n'est pas en profondeur, c'est vraiment le premier millimètre de la surface lunaire. En d'autres termes, c'est une concentration d'environ 1 pour 1000 sur les premiers grains de régolithe lunaire.
Est-ce qu'on peut imaginer que cette eau soit exploitée par des astronautes le jour où on implantera une base permanente sur la Lune ?
Ça me paraît hautement improbable parce que les quantités sont extrêmement faibles. Au moment où les astronautes vont travailler le plus facilement, ça sera en plein jour, il fera très chaud, et à ce moment-là, ces molécules d'eau passent en phase gazeuse, donc ne sont pas récupérables. 1 demi-litre d'eau pour 1 tonne de régolithe, c'est totalement inexploitable en pratique.
Et sur le plan scientifique, est-ce que cette théorie remet en cause le modèle de formation de la Lune ?
Je ne pense pas du tout, dans la mesure où ce mécanisme a lieu en ce moment, et n'est pas du tout le résultat d'une formation de la Lune qui aurait conservé son eau. Donc le schéma actuel de la formation de la Lune par impact géant qui a abouti à une Lune au départ extrêmement énergétique, donc très chaude, et qui aurait perdu la totalité de son eau, me paraît un schéma qui reste parfaitement valable aujourd'hui.
Allez, une petite question qui démange. Est-ce qu'on peut imaginer que grâce à cette eau, une forme de vie se développe ou se soit développée sur la Lune ?
Pas du tout, parce que toute l'eau dont on parle sur la Lune est détectée dans sa phase solide. Or, pour que la vie puisse exister, les spécialistes de la biologie du vivant nous disent qu'il est absolument nécessaire d'avoir de l'eau dans sa phase liquide.
Merci, Francis Rocard.
Ah, merci, c'est beaucoup plus clair comme ça.
Dans tous les sens.
Dans tous les sens.
Attitude. 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 Est-ce que j'ai une tête d'attitude ? Ce qui est sûr, c'est que la position de ma tête en dit long sur mon attitude. Réservée, songeuse, enjouée, voire inqualifiable. Et si, comme les satellites, j'avais la tête en l'air ? À coup sûr, je ferai tout mon possible pour garder les pieds sur terre. C'est-à-dire, ne pas perdre la tête. L'attitude pour un satellite, c'est justement cette manière de se tenir dans l'espace sans céder aux influences ni de la Terre, ni de la Lune, ni du Soleil. Pour un satellite, la positive attitude, c'est la position dans laquelle il va pouvoir mener à bien sa mission. Doit-il observer la Terre comme spot ? Il devra alors garder ses caméras braquées en permanence vers le sol. Est-il à la recherche d'un nouveau monde, comme Corot ? Il pointera alors une minuscule zone du ciel dont il ne devra dévier sous aucun prétexte. Mais attention, même s'il lutte en permanence pour tenir la position, garder la posture, et ce sous toutes les latitudes, le satellite n'est pas un poseur. En réalité, il travaille sans lassitude et ne garde son self-control qu'au prix d'efforts permanents. Pour un satellite, cette constance dans l'attitude est primordiale, car c'est d'elle que dépend en grande partie l'exactitude des données qu'il fournira à ses utilisateurs. Voilà pourquoi, pour un satellite, une bonne attitude est bien plus qu'une manière d'être, c'est véritablement sa raison d'être.
Mais qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
Merci les ovnis. Les loisirs et la météo aidant, nous avons été, je n'en doute pas, plus nombreux cet été à tourner les yeux vers le ciel pour prendre le temps de l'observer, plus nombreux à pointer le nez vers les étoiles. Certains parmi nous y ont sans doute vu ou entreaperçu des phénomènes étranges, et non immédiatement identifiés, du moins par eux. Routes aériennes, passages de satellites et de stations orbitales, comètes, voire rentrées flamboyantes d'un étage de fusée, rien ne manque dans le ciel pour éveiller notre imaginaire qui se nourrit à la même table que l'observation la plus scientifique. L'essentiel est de ne pas prendre des vessies pour des lanternes, ni la Lune pour un vaisseau spatial bourré de martiens sanguinaires. Au CNES, le GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, a reçu la mission d'aller le plus loin possible dans l'identification de ces phénomènes, plus couramment connus sous le nom réducteur d'OVNI, d'objets volants non identifiés. L'engouement pour ce travail d'enquête et d'archivage n'a pas faibli, surtout depuis la mise en ligne des données de ce groupe. Comment l'expliquer ? Le philosophe et l'historien feront remarquer, non sans raison, que les humains ont toujours été fascinés par la possible existence d'autres êtres qu'eux, aussi intelligents qu'eux, voire plus encore. Éternelle question qui suit l'humanité comme son ombre sous des formes si variées. L'autre est imaginé, désiré, célébré, refoulé, craint, ignoré, oublié. Mais au fond, nous ne pourrions vivre sans lui. Une autre explication de l'engouement pour les travaux du GEPAN serait que, pour une fois, le CNES ne se contente pas de parler d'engins hors du commun et de technologies de pointe, de programmes ambitieux et d'explorations lointaines, mais il se met à l'écoute des gens, de leurs propres aventures. Le CNES montre qu'il est capable de s'intéresser à ce qui peut, somme toute, arriver à chacun d'entre nous, j'entends observer dans le ciel un phénomène étrange. Alors, merci les ovnis.
Alors, allons-y.
Allons-y. La capsule a été imaginée par Daniel Fievé, Didier Jamais et Séverine Klein. Écrite par...
Essentiellement Didier Jamais.
Et c'est qui a écrit le titre ? C'est quand même le plus important.
Il n'y a pas que toi, il y a Jacques Arnoux.
Oui, bien moi aussi. Mais on ne peut pas mettre ma chronique et celle de Jacques au même niveau.
Non, tu as raison. Et d'ailleurs, ta chronique ne serait rien sans ma voix.
Et moi, je suis l'auteur du titre. Et ben qui c'est qui va aller sur le terrain ?
C'est Daniel qui a raison. Le talent, la création, c'est nous.
Oui, mais le montage, l'habillage, c'est
oui,
tout.
Non, mais bon.
Bon, les rois de la créa, là en bas.
Oui. Roger.
Votre temps de parole est écoulé pour aujourd'hui. Ce serait peut-être temps de rentrer chez vous.
On redémarre ? C'est qui a les clés ?
Allez, à la prochaine.